Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, César Yao.
Bonjour à tous, le sommaire de ce mardi 7 heures. Hier, lundi, marquait la célébration de la Journée africaine des droits de l'homme au cours de la 5e édition en Côte d'Ivoire. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré, a rappelé que l'Union africaine demande aux États de s'assurer d'une bonne éducation dans laquelle les citoyens sont bien formés et suffisamment qualifiés pour une société du savoir et où aucun enfant n'est privé de scolarité à cause de la pauvreté ou de toute forme de discrimination. Le mode opératoire de la révision de la liste électorale expliqué aux différentes couches sociales de la région de l'IFO, une phase qui concerne les personnes jamais inscrites sur la liste électorale et les électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote ou changer d'autres informations personnelles. Dans l'actualité internationale, Burkina Faso face à l'insécurité, Médecins sans frontières suspend ses opérations à Guibo dans le nord du pays. Francis Kassi passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour. Et puis en fin d'édition, l'invité de la rédaction Soro Adams recevra Bamba Drissa, président du conseil d'administration du mouvement ivoirien des droits de l'homme MIDH. Au centre des échanges, la dissolution par le Conseil national de sécurité le 17 octobre dernier de toutes les organisations syndicales, universitaires et scolaires. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Hier, 21 octobre, marquait la célébration de la Journée africaine des droits de l'homme. Et bien, pour l'occasion, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a organisé des activités en vue de promouvoir les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'était à l'auditorium de la primature à Abidjan. Plateau compte rendu signé Mel Emmanuel.
Éduquer une Afrique digne au 21e siècle. Construire un système éducatif résilient pour un accès accru à l'apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique, c'est le thème choisi pour l'édition 2024 de la Journée africaine des droits de l'homme. Cela, en rapport avec les enjeux liés à l'apprentissage, nous dit la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Namizata Sangaré.
Le choix du thème est judicieux au regard des enjeux et défis relatifs à la question de l'éducation et d'égalité des chances.
Et cette mise en avant du droit à l'éducation pour tous intervient conformément aux recommandations de l'Union africaine en la matière.
L'Union africaine demande surtout aux États de s'assurer d'une bonne éducation dans laquelle les citoyens sont bien formés et suffisamment qualifiés pour ayant la science, la technologie et l'innovation pour une société du savoir qui constitue la norme et où aucun enfant n'est privé de scolarité à cause de la pauvreté ou de toute forme de discrimination.
Ainsi, au terme de cette activité, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a produit et distribué un ouvrage sur les mécanismes africains de promotion et de protection des droits de l'homme. Namizata Sangaré.
Nous avons sorti un document qui enregistre tous les instruments produits par l'Union africaine et qui protège les droits de tous les Africains.
En Côte d'Ivoire, la célébration de la Journée africaine des droits de l'homme était à sa 5e édition.
Lutte contre le terrorisme, des journalistes ivoiriens sont formés en ce moment même à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. À l'ouverture de ce séminaire, le ministre de la Communication Amadou Koulibaly a souligné l'expansion de la menace terroriste du Sahel vers le golfe de Guinée, un phénomène qui appelle à une vigilance accrue, notamment dans le traitement de l'information. Écoutons un extrait de son intervention.
Le terrorisme est passé à une nouvelle phase de son développement qui s'illustre par une logique de conquête de territoire. Cette orientation a entraîné le débordement de la menace du Sahel central vers les parties sud, notamment du golfe de Guinée. En cette période de propagation d'idéologies extrémistes et de mutations géopolitiques sans précédent, vous portez la lourde responsabilité de guider, d'inspirer, de mobiliser, de nourrir et d'alimenter un sentiment national fort sans sombrer dans la facilité de la stigmatisation ou de cette belligérance artificielle que l'on veut créer avec nos pays voisins. Pour ce faire, nous devons vous assurer une formation de qualité. C'est donc cette opportunité qu'offre ce séminaire. Durant ces 2 jours de formation que vous offre la ILCT, je vous invite à être attentif aux enseignements, mais surtout au partage d'expériences qui sera développé par d'éminents experts.
Voilà, c'était le ministre de la Communication Amadou Koulibaly. Grève des enseignants, bilan et perspective à présent, 72 heures, c'est la durée de l'arrêt de travail observé la semaine dernière par des syndicats des secteurs éducation, formation, de la protection sociale et de la santé. Cette décision de grève pour eux est le résultat de près de 2 années de dialogue jugé improductif. Plusieurs revendications sont exigées, mais le point d'orgue reste tout de même l'octroi de primes trimestrielles d'incitation conséquente aux différents personnels. Le point de la situation et les perspectives avec Ekoun Kouassi, secrétaire général du syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire.
Le bilan pour nous est très très satisfaisant parce que nous avons vu la quasi-totalité des établissements secondaires général public fermés. Quand on voit le lycée classique, le lycée d'excellence Alassane Ouattara fermé, nous disons que le bilan il est largement positif. Mais il faut aussi signifier que nous attendions après ces arrêts de travail que les choses bougent. Et effectivement, le comité consultatif chargé de la question des primes a déjà eu même une première réunion sur notre priorité priorités, c'est-à-dire la question des primes. Donc pour nous, c'était un arrêt de travail d'avertissement de 3 jours, dit à l'autorité que nous tenons à cette préoccupation, c'est la question des primes.
Qu'est-ce qui ressort en termes de perspective aussi?
Le comité consultatif a été officiellement installé. Au vu des résultats de la deuxième réunion du comité consultatif qui aura lieu le 28 novembre, nous allons à une assemblée générale le 30 novembre pour analyser, apprécier, pouvoir dégager les perspectives.
À côté des primes trimestrielles d'incitation, qu'est-ce que vous avez encore sur la table des revendications?
Nous avons aussi la question des indemnités des examens à grand tirage et dans un délai très 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 court, au maximum 1 mois après la fermeture des examens à grand tirage. Nous sommes aussi dans une fêtière, nous avons d'autres préoccupations qui concernent l'enseignement primaire.
Voilà, Ekoun Kouassi, secrétaire général du syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, en ligne avec Didier Blé. Le superviseur de la commission électorale indépendante de l'IFOU, Émile Ebrouti, a expliqué récemment à Daoukro le mode opératoire de la révision de la liste électorale aux différentes couches sociales de la région. Cette phase qui a lieu du 19 octobre au 10 novembre 2024 concerne les personnes jamais inscrites sur la liste électorale et les électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote ou changer d'autres informations personnelles. Des précisions de la séance de sensibilisation et d'information avec notre correspondant sur place, François Kra.
Pour Émile Ebrotier, l'opération actuelle a connu des innovations, notamment avec la limite d'âge pour l'enrôlement des nouveaux majeurs.
Le 19 octobre, j'ai 17 ans, mais je vais avoir 18 ans le 15 janvier. J'ai le droit de m'inscrire sur la liste.
À cela s'ajoute le changement de lieu de vote en ligne qui est suspendu.
On avait mis en place un système où chaque région, chaque département avait un code QR. Alors il y a certaines personnes qui prenaient un certificat de résidence à Daoukro, faisaient la photocopie, puis mettaient les noms parce qu'il a à main, hein, et puis remplissaient le certificat de résidence à main. Alors quand ça vient chez nous, quand on a le QR, c'est le QR de l'IFOU. C'est avec tout ce qui est l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses. Alors, c'est tout ça que nous avons détecté. Donc, il n'y a plus de données en ligne.
Sur le délai de 3 semaines de l'opération qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, il réagit.
12 000 lieux de recensement. Et chaque lieu de recensement peut recenser 50 personnes par jour. Quand on a fait le calcul, avec le temps qui a été mis à votre disposition pour vous recenser, c'est-à-dire du 19 au 10, on peut recenser 13 millions de personnes. Alors que notre objectif, c'est 4 millions. Mais généralement aussi, en Afrique, nous attendons toujours le dernier jour.
Raison de plus pour le préfet de l'IFOU, Dicky Raymond Claude, d'inviter les leaders communautaires et élus locaux à renforcer la sensibilisation auprès des populations pour le succès de l'opération qui constitue un maillon essentiel du processus électoral. François Kra, Daoukro, Radio de la Paix.
Révision des listes électorales, toujours avec le PPACI cette fois, qui suit également cette opération. Comment se déroule-t-elle au sein de ce parti? Des détails avec Krizwa Anangama, il est le secrétaire exécutif de la commission électorale et applications numériques du PPACI.
C'est une activité qui est instituée en Côte d'Ivoire par la loi électorale en son article 6 qui dit que la révision doit se faire de façon annuelle. Donc nous, en tant que parti politique responsable devant les populations ivoiriennes, nous prenons notre bâton de pèlerin chaque année pour dire à nos militants et à la population ivoirienne de façon générale de se préparer à se faire enrôler. C'est ainsi qu'au PPACI, depuis juin 2024, nous avons lancé l'opération CAP 2025, consistait pour nous à nous rendre dans les différentes régions pour véritablement demander aux populations de se faire inscrire en masse sur la liste électorale.
Le samedi, la phase officielle a démarré. Et qu'est-ce que vous dites?
Nous avons maintenant mis en place des équipes de veille sur l'ensemble du territoire national qui nous font des rapports journaliers par rapport aux problèmes qui pourraient éventuellement se poser sur le terrain. Nous aidons aussi les populations à acquérir leurs documents administratifs à travers des comités de suivi qui ont été mis en place. Et puis nous avons notre organe d'alerte précoce qui est baptisé Sentinelle Anti-Fraude Électorale Safe, qui est aussi à l'œuvre sur l'ensemble du territoire national pour nous faire revenir ça et là les informations qui pourraient nous permettre d'aider les populations à se faire enrôler effectivement sur la liste électorale.
Voilà, Krizwa Anangama, secrétaire exécutif de la commission électorale et applications numériques du PPACI, était en lien avec Junior Carnet. Dans l'actualité internationale, face à la multiplication des incidents sécuritaires à Guibo, MSF a annoncé dans un communiqué publié hier lundi la suspension de ses activités dans cette ville du nord du Burkina Faso cernée par les groupes terroristes. Et bien, pour expliquer sa décision, l'ONG invoque également le décès de l'un de ses membres le mois dernier. La décision de l'organisation vient aussi apporter une nouvelle preuve des difficultés quotidiennes que rencontrent les ONG nationales et internationales pour fournir un soutien matériel, sanitaire et alimentaire aux populations prises dans le piège du terrorisme dans le pays. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Francis Cassi. Bonjour Francis.
Bonjour César, bonjour à tous. C'est par de couac que, en croit vos journaux, connaîtrait l'opération de révision de la liste électorale démarrée le 19 octobre dernier que nous ouvrons la revue de leurs titres ce mardi. Révision de la liste électorale, quiproquo ou cacophonie à la CEI autour de la CENI, s'interroge à ce propos le Nouveau Réveil. Alors que son confrère Le Temps, lui, se veut ainsi péremptoire. Irrégularité et fraude sur la liste électorale, le document qui assomme la CEI. Avant que le quotidien d'Abidjan n'écrive concernant le président de la CEI. Présidentielle 2025 et le rôle de la CEI. Koulibaly Kubié dans une posture excursionniste. Mais malgré cela, les trois grands partis politiques ivoiriens s'activent sur le terrain au sujet de cette opération de révision de la liste électorale. Nous apprennent certains tabloïds, dont Le Matin, qui, pour le RHDP, barre ainsi sa une. Révision de la liste électorale, élus et cadres du RHDP à fond sur tous les fronts. Quand, pour le compte du PDCI, le Bélier intrépide dit RLE, enrôlement des nouveaux majeurs, la jeunesse du PDCI RDA sonne la mobilisation. Pareil pour le Temps, notons ceci en faveur du PPACI. Enrôlement sur la liste électorale, le PPACI sur tous les fronts. Cependant, au-delà de ces trois grands partis, deux quotidiens ont un regard croisé quant à l'inscription ou non de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. D'abord, le Jour Plus avec cette interrogation. Révision de la liste électorale, ni électeur ni éligible, jusqu'où ira Laurent Gbagbo? Et la voix originale lui donne la réponse avec ceci. Présidentielle 2025, quoi Justin sans détour, sans Gbagbo, pas d'élection en 2025. Au FPI, la crise s'approfondit à mesure que les jours passent. Et le dernier fait en date, c'est la suspension d'un des cadres dont vos quotidiens se font l'écho ce jour. Notamment notre voix, avec cette manchette. Suspension de Gbagbo Gaudé au FPI, les structures spécialisées d'accord avec le comité central. Mais là-dessus, le sursaut titre. Conflit interne au FPI. Avis de tempête chez Pascal Afinguessan. Ces deux jours seront décisifs pour l'avenir du parti. Et puis, par rapport à la dissolution des organisations syndicales universitaires et scolaires, Génération Nouvelle indique que le CINARES réagit. Enfin, terminons notre revue des titres de vos quotidiens ce 22 octobre avec Fraternité Matin, qui, par rapport à la désormais implication du corps préfectoral dans la gestion des hôpitaux, dit ce que le gouvernement attend des préfets. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Voilà, c'était la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Francis Cassi. À présent, l'invité de la rédaction sur Adam reçoit Bamba Drissa, président du conseil d'administration du mouvement ivoirien des droits de l'homme MIDH, qui dit être surpris par la rapidité avec laquelle le conseil national de sécurité a dissous depuis le 17 octobre dernier toutes les organisations syndicales, universitaires et scolaires suite à la mort d'un étudiant de la FESI et pour laquelle son secrétaire général et d'autres suspects ont été arrêtés et attendent d'être jugés entretien.
Bonjour Monsieur Bamba Drissa.
Bonjour Monsieur Soro.
Réunis le 17 octobre 2024 sous la présidence du chef de l'État, le Conseil national de sécurité, le CNS, a pris la décision de dissoudre toutes les organisations syndicales et autres associations d'élèves ou d'étudiants sur le territoire national. Et vous dites être interpellé particulièrement par ce dossier. Pourquoi ?
Oui, merci. Alors, je pense que vous faites bien d'indiquer organisations syndicales et associations, parce que dans le cadre des écoles et de l'université, il s'agit d'associations. Alors, ceci dit, s'il est vrai que l'État est le régulateur, n'est-ce pas, des libertés publiques, il n'est pas moins vrai que la décision prise par le Conseil national de sécurité nous semble précipitée. Et pour cause, le dossier qui a suscité cette décision, c'est le dossier de la FESI. Dossier qui se trouve en ce moment même sur la table de la justice ivoirienne. Selon nous, il aurait été élégant d'attendre les conclusions de l'instruction du dossier, d'attendre que le procès ait lieu et puis de prendre en compte le verdict rendu, n'est-ce pas, par le tribunal avant de prendre cette décision-là. Cela, selon nous, aurait été plus élégant. C'est notre analyse de la chose. Et au regard de ce qui se passe, au MIDH, nous nous interrogeons. Nous nous interrogeons sur les implications et les intérêts politiques de cette décision de dissolution, non pas de la FESI, mais de toutes les associations d'élèves et étudiants sur l'ensemble du territoire national. Alors que le fait qui a suscité la décision, c'est quelques membres de la FESI. Mais s'il s'agit de meurtre ou d'assassinat, ce que nous déplorons, ben, du point de vue pénal, la responsabilité est individuelle et nous pensons que la démarche n'est pas bonne. Voilà.
Reconnaissez-vous qu'il y a comme une sorte de mafia sur le territoire universitaire et scolaire ivoirien?
Alors, vous nous permettez là justement d'égrener quelques méfaits attribués à la FESI. Nous-mêmes, MIDH, souvenez-vous que l'assassinat de M. Habib Dodo de l'AGCI en son temps, en 2004, a été documenté par notre organisation. Et nous avons produit un rapport qui, jusqu'au jour où je vous parle, les tribunaux ont été saisis, mais rien n'y fit. Après cela, dans la même veine, il y a eu, n'est-ce pas, des cas de viol. Il y a un cas spécifique qui a fait couler beaucoup de salive, n'est-ce pas? Et c'était le cas d'une dame que je ne vais pas nommer ici. Voilà, mais nous avons aussi documenté, nous avons saisi les tribunaux, mais rien n'a été fait. Voilà, à côté de ça, c'est de façon régulière que nos différentes sections à Boaké et dans les autres villes où il y a les universités, nous saisissent pour nous dire qu'il y a des allégations de violation des droits de l'homme perpétrées. Ça, c'est connu, c'est indéniable. Mais ce que nous disons, c'est la démarche. C'est la démarche. Nous sommes tout à fait d'accord pour l'assainissement du milieu étudiantin, notamment le milieu des associations d'étudiants. Nous sommes tout à fait d'accord pour cela, mais nous disons que la procédure n'est pas bonne.
Mais qui est-ce que vous accusez dans ce dossier?
Nous n'accusons personne. Nous sommes société civile, nous sommes observateurs. Mais nous tirons la sonnette d'alarme. Nous constatons simplement que, avant même que l'assassinat du général Sorcier, parce que c'est son surnom, n'ait lieu, il y a eu plusieurs rencontres au cours desquelles il y a eu des informations diffusées par le secrétaire général de la FESI, qui est aujourd'hui arrêté, qui indiquaient que ben, ils étaient sous des menaces parce qu'ils dénonçaient des cas d'usage de drogue, n'est-ce pas, dans le milieu étudiantin, parce qu'il y a des hommes politiques qui voulaient contrôler leur association. Ben, tout ça mérite d'être quand même regardé. En tout cas, nous faisons confiance au procureur de la République qui a le dossier et qui va certainement mener ses enquêtes pour voir de quoi il s'agit. Mais nous disons, il faut assainir le milieu. Il faut assainir le milieu et arriver à la dissolution si c'est ce qu'il faut. Parce que lorsqu'une association est créée et qu'elle sort de son but, de son objet, bien entendu, la loi autorise le gouvernement ou le chef de l'État, n'est-ce pas, à dissoudre cette association. Et là, vous me tendez une perche, pourquoi ? Parce qu'il y a une ordonnance en ce moment sur justement la société civile, les associations et autres, qui fait l'objet d'assez de discussions, n'est-ce pas, entre la société civile et le gouvernement. Ben, d'aucuns pensent que cette ordonnance vise à museler la société civile. Mais si, de par ce fait-là, on dissout de cette manière-là toutes les associations, je dis bien toutes les associations, cela nous interpelle et il faut faire attention.
La FECI n'est pas seule dans les dérives que l'on enregistre sur le terrain universitaire et scolaire.
Mais bien sûr, alors à Abidjan, on parle beaucoup de FECI, mais quand vous allez à Boaké, on parle de CECI, dans d'autres endroits, on parle d'AGECI. Ce sont ces associations-là, mais à des degrés moindres. Et il faut assainir le milieu et pourquoi pas ouvrir une discussion avec ses élèves et étudiants et parvenir à une solution qui va apaiser le climat social. Parce que n'oublions pas, nous sommes seulement à un an de l'élection présidentielle de 2025. Il ne faut pas créer des poches de tension.
Je vous remercie, monsieur Bamba Drissa.
C'est moi.
Voilà, ce roi d'âme se recevait Bamba Drissa, président du conseil d'administration du mouvement ivoirien des droits de l'homme dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui met un terme à cette édition. Tout de suite, le rappel de l'essentiel. Hier, lundi, marquait la célébration de la Journée africaine des droits de l'homme. Au cours de la 5e édition en Côte d'Ivoire, la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré, a rappelé que l'Union africaine demande aux États de s'assurer d'une bonne éducation dans laquelle les citoyens sont bien formés et suffisamment qualifiés pour une société du savoir et où aucun enfant n'est privé de scolarité à cause de la pauvreté ou de toute forme de discrimination. Le mode opératoire de la révision de la liste électorale expliqué aux différentes couches sociales de la région de l'IFO, une phase qui concerne les personnes jamais inscrites sur la liste électorale et les électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote ou changer d'autres informations personnelles. Enfin, dans l'actualité internationale, Burkina Faso, face à l'insécurité, Médecins sans frontières suspend ses opérations à Guibo dans le nord du pays. Fin de ce mardi 7h, retour à l'actualité 8h.
Radio de la Paix, pour vous.